Bonjour à tous et à toutes. Alors cette présentation, en fait, je suis le relais d'une synthèse qui a été réalisée par mes collègues du service agronomique de K+Escali au siège en Allemagne, et qui ont en fait financé plusieurs travaux de recherche en partenariat avec des universités en Allemagne et en Turquie. Et j'ai trouvé intéressant de vous soumettre ces résultats qui vont dans le sens d'une argumentation pour le rôle du potassium et du magnésium en situation de stress hydrique. Alors c'est vrai que ça peut vous paraître bizarre de parler de stress hydrique en cette année 2013, qui a été quand même pas mal arrosée, mais n'oublions pas quand même que nous avons eu ces dernières années quelques exemples de stress hydrique dû à la sécheresse. Donc, notamment en France et en Allemagne, on a eu la sécheresse du printemps 2011. Il y a eu aussi une sécheresse estivale en 2013. Et plus récemment, ça a été de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, une grosse sécheresse qui a fortement pénalisé les cultures de maïs. Comme quoi les années se suivent et ne se ressemblent pas, mais tous ces facteurs extrêmes, en fait, illustrent bien un phénomène dont on a beaucoup parlé dans l'actualité, et qui est le changement climatique, sur lequel, quand même, les scientifiques ont eu un large consensus. Alors, pour vous illustrer le changement climatique, il y a plusieurs simulations qui existent au niveau international, de nombreux modèles différents qui prennent en compte beaucoup de paramètres. J'ai choisi pour vous illustrer ça, je me suis appuyé sur un site internet, le DRIAS Climat, qui est lié à Météo France et qui fait des simulations à moyen et long terme sur les facteurs température et précipitation. Et donc vous voyez sur ces cartes, donc qui vont de pair, vous avez en haut dans les tons rouges le nombre de jours anormalement chauds au printemps, et en dessous, vous avez dans les tons bleus le nombre de jours de pluviométrie au printemps. Donc on peut choisir les saisons qu'on veut, les paramètres, mais globalement, qu'est-ce qu'on voit avec ces cartes? C'est que donc, par rapport à la référence des années 70, au bout d'un siècle, on a quand même une augmentation forte du nombre de jours anormalement chauds et une diminution des jours arrosés au printemps. Alors, face à ce nouveau phénomène qui a bien sûr des conséquences sur les systèmes de culture, K+Escali a noué et financé des travaux de recherche sur la thématique d'efficacité d'utilisation de l'eau par les cultures. Donc, trois universités allemandes, Gießen, Alvintenberg et Kiel, et puis aussi l'université d'Istanbul, qui a travaillé plus particulièrement sur le magnésium. Donc, je vais vous présenter maintenant quatre fonctions essentielles. Alors, je ne vais pas parler de tout. J'ai choisi quatre fonctions essentielles pour illustrer le rôle soit du potassium, soit potassium et magnésium, ou soit magnésium sur la régulation hydrique des cultures, mais aussi, pour la dernière d'entre elles, au niveau du sol. Donc, les deux premières, que sont la transpiration et le transport des assimilats, bon, ça, ce sont des choses connues, qu'on apprend à l'école, mais je vais vous les rappeler. Et puis deux choses un peu plus récentes sur le développement racinaire, l'effet du magnésium sur le développement racinaire et la porosité du sol. Alors, première fonction, la transpiration. Et il est connu que le potassium a un rôle fondamental sur le fonctionnement des stomates. Donc les stomates, ce sont ces sites où, par où se fait l'essentiel de la transpiration des plantes. Pour rappel, à peu près plus de 90% de l'eau absorbée par les plantes est perdue par transpiration. Et la transpiration se fait par les stomates, et on sait qu'il a été démontré que le potassium intervenait dans les phénomènes d'ouverture, fermeture des stomates, par régulation du flux osmotique. Donc et permet donc ainsi la turgescence ou la plasmolyse des cellules de garde. Alors ce phénomène a été matérialisé par un petit test qui a été réalisé à l'université de Gießen. Hein. Donc vous avez ici, dans deux situations d'humidité de sol différentes, donc à 60% de la capacité au champ et à 30% de la capacité au champ, et avec deux situations donc sans potassium et avec potassium, vous avez donc le volume de transpiration émis par les feuilles. Donc on voit bien donc déjà d'une part que en situation de stress hydrique, la plante va réduire sa transpiration, ça c'est connu, mais surtout c'est que quand il y a une fourniture non limitante de potassium, la transpiration est d'autant mieux maîtrisée. Deuxième fonction, le transport des assimilats ou des sucres. Donc les sucres qui sont synthétisés au niveau des feuilles grâce à la photosynthèse, hein, les rôles du magnésium et du potassium sur ce phénomène sont relativement connus depuis assez longtemps. Hein, donc je rappellerai pour le magnésium c'est l'atome central de la chlorophylle, hein, lieu privilégié de la photosynthèse, et il permet aussi, ce magnésium, la régulation du pH des chloroplastes pour la fixation du dioxyde de carbone. Le potassium, lui, intervient aussi sur la régulation du pH, mais plus par rapport à la formation d'ATP, d'énergie. Et quand on a une carence, eh bien, on a une perturbation de ces process de synthèse des sucres. Et en fait, la synthèse des sucres conduit à cette diminution de la synthèse des sucres conduit à une accumulation en fait aussi dans la feuille et à une moindre distribution par le phloème. Parallèlement à ça, on a une accumulation des radicaux libres oxygénés dans la feuille qui ont pour conséquence en fait aussi un endommagement des cellules et se visualise par des symptômes de carence. Alors, par rapport au transport ensuite, donc les sucres synthétisés au niveau des cellules sources des feuilles sont redistribués par le phloème vers les organes puits, hein, qui peuvent être les racines ou les fruits. Et là aussi, le potassium et le magnésium ont un rôle sur ce transport des sucres et déjà son transfert dans les cellules compagnes et ensuite dans la circulation dans le phloème. Hein, notamment, le potassium intervient fortement sur le maintien du pH élevé dans le phloème et aussi à la construction du potentiel osmotique nécessaire au mass flow. Le magnésium, lui, interviendrait, je dis bien interviendrait, au niveau du fonctionnement des pompes à protons, donc les MGATP, mais ce mécanisme n'est pas totalement bien compris et reste encore à éclaircir. Un petit résultat réalisé par l'Université d'Istanbul pour illustrer ce rôle du magnésium sur le transport des assimilats. Donc vous avez dans ce test, en fait, situation sans magnésium comparée à une situation avec magnésium en bleu. Et vous avez dans la partie gauche donc les sucres présents dans les feuilles sources et dans la partie droite les sucres qui vont dans le phloème. Et on voit bien que, en fait, quand on a une carence en magnésium, les sucres restent accumulés dans les feuilles et ne vont pas dans le phloème et donc ne sont pas redistribués vers les organes puits. Et chaque MAC, donc qui est le professeur de l'Université d'Istanbul, a illustré ce phénomène aussi par une série de photographies qui sont assez intéressantes et qui a mis en évidence qu'en fait, cette translocation par le phloème avait directement un impact sur le développement racinaire. Et si vous prenez maintenant ici ce test, on a en plus du potassium et du magnésium rajouté aussi le phosphore en comparaison. Donc on voit bien, vous avez donc la part des sucres en comparaison entre la partie aérienne en haut et la partie racinaire en bas. Donc vous avez le témoin où on a une répartition 84% dans les feuilles, 16% dans les racines. On voit bien carence en potassium, carence en magnésium, on a des symptômes foliaires, mais on a aussi, comme on pouvait s'y attendre, un fort impact sur le développement racinaire. Et pour le magnésium notamment, on n'aura que 1% des sucres dans les racines et 99% resteront dans les feuilles. Alors, ça, c'était des résultats de recherche au laboratoire. Et mes collègues du service agronomique en Allemagne ont voulu vérifier ça au champ. Et en partenariat avec l'université de Halle-Wittenberg, ils sont allés sur un site d'essai longue durée assez connu en Allemagne, à Bernburg, au sud de Berlin. Donc, c'est dans une zone sol Tchernosium sur Leuse, zone assez sèche en général. Hein, il y a 500 mm de précipitation annuelle. Et on a mesuré, hein, donc à l'aide d'un rhizotron, la profondeur d'enracinement sur betterave en 2009. Et donc on voit bien, en comparaison, donc vous avez les points gris, ce sont les parcelles témoins avec impasse, et les points rouges, ce sont les parcelles fertilisées avec du potassium, donc en l'occurrence 300 unités de K2O, et du magnésium, donc 45 unités de MgO. Donc on voit, jusqu'à 53 jours après le semis, que les parcelles fertilisées ont permis un enracinement plus profond des racines. Sur le même essai, parallèlement, on a fait des mesures de teneur en eau du sol hein, avec des sondes TDR. Donc ici, vous avez sur la profondeur 0,40 cm et on observe qu'en fait, dans les parcelles fertilisées par rapport aux parcelles impasses, la teneur en eau du sol est inférieure. Donc, qu'est-ce que ça illustre ? Ça illustre bien que les racines, non seulement se sont plus développées, mais aussi plus absorbées d'eau dans le sol par rapport aux témoins. J'en viens maintenant à la dernière fonction, la quatrième, sur la porosité du sol. Et là, ce sont des résultats assez récents qui viennent donc de l'université de Gießen. Donc, par rapport à la porosité, bon, il est connu que la réserve utile du sol dépend fortement de la porosité et de la taille des pores, notamment. Donc, on sait qu'on a des petits pores où l'eau est fortement liée et donc cette eau sera très peu disponible pour les pentes. On a d'un autre côté aussi une grosse porosité qui, elle, laisse circuler l'eau et qui percole. Et en fait, ils se sont aperçus, Mme Hultunsen s'est aperçue dans ses travaux de recherche, que le potassium favorisait la création de ponts de minéraux d'argile entre les agrégats du sol. Et cela permettait en fait de créer une porosité de taille moyenne qui a la particularité de mieux retenir en fait l'eau dans le sol. Alors, vous avez ici sur ce transparent une approche d'illustration de ces ponts de minéraux d'argile. Ce n'est pas très bien compris comme phénomène, ça reste encore à étudier, mais il semblerait en fait que le potassium agit comme un liant entre ces minéraux d'argile. Alors, cet aspect sur la réserve utile du sol, parallèlement, on a réalisé des tests sur la résistance au compactage, un test de cisaillement hein, par rhéomètre, pour vérifier en fait cet aspect de stabilité de la structure du sol et le rôle des ponts de minéraux d'argile. Et en fait, vous voyez les résultats que dans une situation de parcelle fertilisée, on a aussi une meilleure résistance au cisaillement, et donc qui confirme bien que ces ponts de minéraux d'argile améliorent la structure du sol. Alors, on est reparti au champ. Et en Allemagne, en Hongrie et en République tchèque, il y a à peu près une quinzaine d'essais longue durée. Et toujours, l'université de Halle-Wittenberg a voulu vérifier en fait cette hypothèse au champ sur ces 15 essais. Et ils ont fait donc des mesures de réserve utile en eau sur tous ces essais, sur les parcelles impasses, comparées aux parcelles qui ont reçu une fertilisation annuelle en potassium. Et donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Ici, vous avez le cas des sols sableux, hein, de façon significative, les parcelles ayant reçu une fertilisation potassique ont toujours une réserve utile supérieure aux parcelles impasses. Hein. En moyenne, plus 9% en valeur relative, qui correspond à peu près à plus 3% en valeur absolue. Donc ici, vous aviez 5-6 décès. Les autres sites d'essai en sol plutôt limono-argileux, on a la même tendance, un peu moins marquée cette fois-ci, bien entendu, hein, donc plutôt à plus 8% en valeur relative en moyenne. Alors, On pourrait très bien se poser la question, oui, mais est-ce que ce n'est pas dû à la matière organique? Et par chance, dans un des essais longue durée, en fait, il y avait des parcelles différenciées en teneur matière organique. Et on a vu pour les trois classes de matière organique considérées, donc vous avez entre parenthèses la teneur en carbone organique, qu'à chaque fois, les parcelles qui ont reçu plus de potassium ont une plus grande réserve utile. Alors, on revient maintenant au premier essai longue durée, parce que là, on s'est reconcentré sur cet essai pour faire d'autres mesures, et on a été en 2009, donc à la récolte. Donc voilà la récolte qu'on a obtenue sur cet essai, donc en racine, un peu plus de 54 tonnes hectare, et sur la parcelle fertilisée, 57 tonnes. Donc on a une différence de rendement qui est classique dans un essai betterave, qui n'est pas surprenant. On a donc, je vous l'ai dit, parallèlement effectué des mesures hydrologiques sur le sol, quantité d'eau du sol, mesure de la transpiration aussi, de la culture, et donc on obtient une estimation de la consommation en eau de la culture pour chacune des modalités. Donc, et on voit déjà une différence que, en fait, la parcelle qui a reçu la fertilisation potassique et magnésium a consommé moins d'eau que la parcelle témoin, alors qu'elle a eu un rendement supérieur. Donc on en déduit ce qu'on appelle en anglais le water use efficiency, donc l'efficience d'utilisation de l'eau, et on obtient un résultat assez marqué entre les deux parcelles. Et si je l'illustre par ce graphique, donc on voit pour produire 1 kg de sucre, dans la parcelle témoin, on aura utilisé 375 litres d'eau, alors que dans la parcelle fertilisée potasse et magnésium, on aura utilisé 321 litres d'eau. Donc, meilleure efficience d'utilisation de l'eau par la culture en situation fertilisée. Alors, chez Cali, au niveau de notre service agro, on a aussi des essais qu'on conduit nous-mêmes, et on avait, par chance, on avait un essai sur 2 ans, en 2002 et en 2003, sur orge de printemps. Et en 2003, je vous l'ai dit en introduction, il y a eu une sécheresse, et on a pu mesurer donc cet effet sécheresse sur le même site pour la même culture, donc 2 années de suite. Donc vous voyez en 2002, année classique, on a un effet rendement des modalités fertilisées avec un gradient de dose, mais on voit que en 2003, l'année sèche, effectivement en valeur absolue, le rendement est bien inférieur puisqu'on a un effet sécheresse, mais l'effet fertilisation sur le rendement en valeur relative est bien supérieur en situation d'année sèche, donc qui confirme tout l'intérêt de la fertilisation dans ces situations extrêmes. Donc en conclusion, ces arguments nous permettent d'affirmer que le potassium et le magnésium minimisent le risque de chute de rendement en année sèche. Bien sûr, pas en 2013, mais ils améliorent quand même le rendement. Alors, ce qui nous reste à faire aussi, c'est un peu à faire une estimation du coût, parce que quand on est face à une sécheresse, un stress hydrique de la culture, on a une chute de rendement, donc ça, c'est un coût, ou c'est un gain en moins pour l'agriculteur. Dans ce cas-là, il pourra, mais encore faut-il être équipé, activer l'irrigation, mais l'irrigation, elle aussi, a un coût. Et donc, par rapport à ça, je vous invite aussi à aller voir les posters de mes collègues, donc Thomas et Yorick, qui ont fait une modélisation économique de l'intérêt de la fertilisation, y compris sur l'essai longue durée d'ASPAC, où il y a eu des années sèches. Alors, par rapport à ces résultats, K+S-Cali a conforté en fait sa volonté de continuer à financer des travaux de recherche. Il y a 2 ans, en fait, avec l'université de Göttingen, K+S-Cali a créé l'IAPN, donc l'Institute of Applied Plant Nutrition, basé à Göttingen en Allemagne. Et cet institut de recherche va travailler principalement sur l'effet de la fertilisation pour la tolérance au stress abiotique d'une façon générale, en particulier sur les stress hydriques, mais il y aura aussi des travaux sur les stress dus au gel et aussi au stress parasitaire. Alors, vous allez me demander en France. Eh bien, en France, nous, on a souhaité, l'équipe de Campus Escali France aussi, faire des choses en France. Et nous avons commencé, depuis le début de l'année, un travail en collaboration avec l'équipe de Lionel Jourdan-May sur le stress hydrique en culture de maïs. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Donc, nous avons le temps pour deux ou trois questions avant la pause.
Voilà. Oui, vous nous avez montré donc l'effet de la potasse sur les plantes. Mais dans vos essais, on ne sait pas si on est sur un sol riche, un sol pauvre. Est-ce que même si on a un sol qui est très riche en potasse, avec des réserves en potasse fortes en sous-sol, on a toujours l'effet intéressant sur les stress hydriques ou pas, quoi. Ou est-ce que c'est simplement dans des sols qui sont à des teneurs plutôt faibles?
Alors, là, les tests au champ, en fait, qui ont été réalisés, c'est sur des essais longue durée. Donc, on a effectivement des parcelles impasses qui ont des teneurs relativement faibles en potassium. On est sur ces cas-là. Effectivement, on ne va pas montrer un tel effet sur des parcelles très bien pourvues en potassium ou en magnésium.
D'autres questions ?
Bonjour, Mathieu Vallée, laboratoire SAS AgroSystème. Donc vous avez exposé que le potassium permettait d'augmenter la réserve utile en eau. Pourtant, sur d'autres essais, vous montrez que la plante, après, consomme moins d'eau et du coup, on a plus d'eau dans le sol et surtout moins d'eau dans le sol. Donc j'ai une espèce de problème de compréhension où on améliore la réserve utile, mais en même temps, on se retrouve avec moins d'eau dans le sol. Et pourtant, la plante en consomme moins aussi. Donc, ou par l'eau qui serait retenue davantage.
Alors, on a montré que le potassium, bon, il augmente la réserve utile avec, grâce à son effet sur la porosité du sol. Mais en fait, c'est l'effet fertilisant aussi d'un autre côté, augmente le volume racinaire, donc en l'occurrence de la betterave sur l'essai qu'on avait. Donc l'augmentation du volume racinaire permet une plus grande aussi absorption d'eau et donc réduit le volume d'eau après qui reste. Sur l'essai longue durée.
Remettre la diapo.
On n'entend pas le micro.
Sur les derniers tableaux que vous avez présentés dans l'essai longue durée, où il y avait justement les consommations d'eau en litres par en tonnes en mètres cubes par hectare, elles étaient plus faibles sur les plantes fertilisées.
Sur la racine, au niveau de la racine, Mais et donc la différence se fait aussi au niveau de la transpiration, en fait. Ouais. Donc les parcelles fertilisées, on a eu une moindre transpiration. Le volume total d'eau, finalement, au total, il restait plus d'eau dans la plante au niveau des parcelles fertilisées. Okay.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui.
Oui.
Oui, Dominique Harouet, INRA. J'ai une question sur les ponts potassium là, sur la porosité. Je me disais, il est probable que ça dépend de la texture du sol et que donc c'est peut-être applicable sur des sols sableux, comme vous l'avez montré, ou sablo-limoneux. Mais à partir du moment où vous arrivez à des textures relativement fines, je suppose que ça ne joue plus du tout.
Alors, là, effectivement, on a vérifié plutôt sur les sols sableux, limono-argileux. On a moins cet effet-là sur les sols très argileux.
Il y a d'autres.
Oui, Bertoni Hensat. Vous avez présenté des résultats que j'ai trouvé très intéressants là, sur le potassium et le magnésium, mais en principe, on considère toujours que le potassium est un fort antagoniste de l'absorption du magnésium. Alors, est-ce que dans cet essai, vous avez mesuré indépendamment l'apport de K, l'apport de Mg et l'apport de K plus Mg? Ça aurait été intéressant d'avoir ces différentes modalités.
Alors, Dans les essais en fait, qui ont été réalisés, il y a toujours eu apport ensemble de potassium et magnésium. Donc effectivement, on connaît bien cet antagonisme, et c'est pour ça que nous, on apporte la préconisation de Cali, c'est d'apporter les deux éléments dans un ratio où on a quand même toujours à peu près 3-4 fois plus de potassium que de magnésium. C'est vrai, ce qu'il aurait fallu peut-être illustrer dans les essais, c'était les teneurs au départ du sol en potassium et en magnésium. Mais là, je fais face un peu à une différence culturelle entre le système allemand et le système français, où le système allemand résonne plus en classes de sol, hein, donc les classes ABCD, qu'en teneur, en fait. Et quand on donne une classe de sol, c'est pour les éléments. Quoi. Voilà. C'est pas toujours évident de retranscrire d'un pays à l'autre les résultats.
D'accord. Dernière question, je pense. En haut.
Oui, bonjour, Fabrice Marcovecchio du laboratoire de l'Aisne. Les modalités potassium sont avec le soufre. C'est le soufre qui est l'anion accompagnateur.
Dans l'essai, là, les résultats d'essai,
oui.
Y a un petit peu de soufre. Hein. Donc l'apport a été fait sous forme de corne Cali. Donc on a un petit peu de soufre, mais c'était pas une base sulfate de potasse, c'était une base chlorure. Chlorure avec sulfate de magnésie, en fait.
Nous allons clore. Donc, je propose de remercier encore Olivier Goujard.